Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne.
Chaque automne, c'est le même frisson chez les auteurs, la rentrée littéraire. En quelques semaines, des centaines de romans paraissent, des plumes espèrent, les jurys délibèrent, et le monde du livre retient son souffle. Ce rituel typiquement français, né dans les années 50, a aujourd'hui bien changé. Les maisons d'édition rivalisent d'attention, et les prix littéraires sont devenus de véritables événements médiatiques. Mais derrière les vitrines et les communiqués de presse, que se passe-t-il vraiment? Comment choisit-on ces lauréats que tout le monde attend? Daniel Salnave, de l'Académie française, connaît ses coulisses mieux que quiconque. Membre du jury du Grand Prix du roman de l'Académie française, elle nous ouvre les portes d'un monde où se décident les grands destins littéraires. Daniel Salnave, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'être au studio de l'Institut pour parler de cette rentrée littéraire qui nourrit beaucoup d'imaginaires, celui d'un monde très codifié, avec ses rituels, parfois un peu secrets. Est-ce qu'on le fantasme un peu trop, ce moment éditorial si français?
C'est très compliqué de vous répondre parce qu'on peut être tenté d'aller dans un sens totalement ou dans l'autre totalement. Je serais tenté depuis quelque temps d'avoir une attitude plus critique, plus réservée à l'égard de cette cérémonie d'automne. Je me dis en même temps que j'ai tort parce qu'au fond, c'est tout de même une occasion de lire, de faire lire et de permettre à des auteurs d'être connus, parfois davantage, de vendre des livres. Donc c'est une opération qui peut être positive. Mais tout de même, la vraie question qui se pose, c'est que on est au carrefour d'institutions qui mettent en jeu le commerce à un degré énorme.
C'est assez démentiel, ouais.
Démentiel. Et qui donc entretient autour du livre des zones qui sont un peu troubles. Et ce qui me fait dire cela, c'est quoi? C'est que je vois beaucoup chez des jeunes auteurs qui commencent leur carrière, comme on dit, ou qui ont publié quelques livres, une terrible anxiété. Est-ce que un jour, je vais finir par avoir un prix? Et d'où ce comportement qu'on peut remarquer maintenant d'auteurs qui changent d'éditeur, auteur ou autrice, qui changent d'éditeur en pensant qu'au bout de quelques années, est-ce que leur éditeur les soutient suffisamment? Et essayer de tenter
ailleurs. Ils établissent une stratégie.
Et je me souviens de conversations, partout avec Michel Léon, notre regretté confrère, qui avait été en quelque sorte blessé. Je me souviens d'une conversation avec lui, blessé de voir qu'un auteur sur qui il comptait, qu'il aimait bien, qui était publié dans la même maison que lui, tout d'un coup n'était plus là. Non, elle était partie voir ailleurs. Il faut le comprendre aussi. Je ne tiens pas du tout à en faire le procès des auteurs qui... Mais c'est parce que c'est une telle... Et alors, l'envers, ou plutôt le prolongement ou la prolongation de ces... C'est le déséquilibre entre des livres dont tout le monde va parler, qui vont avoir un tirage énorme, une vente énorme, et à côté de cela, des livres plus qu'estimables, qui n'auront que de faibles ventes ou de faibles échos.
C'est l'auteur Édouard Louis qui, dans un manifeste qu'il a publié au début du mois d'octobre, Que faire de la littérature, justement, il prend position sur ce sujet-là et il appelle à se tenir à l'écart de cette bataille des prix littéraires.
Et en même temps, on ne peut pas imaginer, la situation de la lecture, de la diffusion du livre est telle, elle est tellement problématique, tellement périlleuse, qu'on ne peut pas non plus demander aux éditeurs d'être uniquement des philanthropes qui publient pour la beauté de la chose, même s'ils ne font que perdre de l'argent. Ça, c'est pas possible. C'est une entreprise avec des gens qui travaillent, des salariés, des maisons. Il faut bien aussi que les livres... Donc, on est dans des ambiguïtés. Ce qu'il faudrait espérer, c'est qu'au sein de toutes ces ambiguïtés, les jurys choisissent un suffisamment grand nombre de livres pour qu'au moins ils émergent, entourés de tous ceux...
Ouais, qui est une représentativité.
Voilà, qui est une représentativité beaucoup plus large. Mais à ce moment-là, on se heurtera à une autre difficulté, c'est qu'il y a une sorte d'engouement qui se prépare dès le printemps autour de quelques livres qu'on attend, de quelques thématiques, et d'un seul coup, tout le reste est écrasé par cela. Et ça, j'ai souvent, dans les conversations que nous avions entre consoeurs du Fémina, et même pendant les réunions du jury, mmh. j'entends très préoccupé par ce rouleau compresseur, il suffit qu'un livre soit nommé, et les autres le nomment aussi, et une sorte de mouvement un peu moutonnier se met en place. Et ça, c'est dire qu'on est dans des eaux troubles. Mais dans ces eaux troubles, flottent, voguent, naviguent des vaisseaux et des vraiment formidables. Donc, à cause de ça, c'est bien.
Je voulais revenir sur le fonctionnement de ce grand prix du roman de l'Académie française. C'est un prix qui a été lancé en 1914, quelques années après le Goncourt. Dans tout le paysage des prix littéraires, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce prix-là de l'Académie française ?
Alors, d'abord, l'Académie distribue des prix.
Il y en a plusieurs.
C'est une, depuis sa fondation, plutôt prix d'éloquence, etc. Mmh. Donc, des prix en très grand nombre. Mais le grand prix du roman est évidemment le plus connu, parfois le seul, du public. Mmh. Et alors que nous allons donner à la séance solennelle de décembre...
Il y a une soixantaine de prix.
Au total, une centaine, je pense.
Une centaine de prix.
Près, je pense qu'on en est, je peux me tromper, mais on en est plus de 60,
ouais,
certainement.
Il y en a énormément.
Donc la particularité du Grand Prix, d'ailleurs vous remarquerez que le Goncourt a joué un rôle, parce que c'est à cause de lui que le féminin s'est créé, pour que des femmes aient le prix, alors ce n'est pas uniquement, ils ne l'ont pas donné seulement à des femmes, mais que mmh. le jury soit un jury de femmes. Ouais. Et puis le Grand Prix du roman aussi, de l'Académie. Et si on regarde son histoire... On voit qu'il a couronné ce prix des livres extrêmement importants, très estimables et très importants. Et le sentiment que j'ai, moi, c'est que depuis quelques années, il est devenu ou redevenu le grand prix. Il mérite véritablement son nom, c'est vrai.
C'est le prix qui ouvre la saison littéraire,
c'est lui qui ouvre, oui, qui ouvre. Et alors, donc, la structure de décision, ce n'est pas comme un jury... qui reçoit tous les livres, comme je disais, mettons l'Interallié, ouais. Renaudot ou le Féminin. Mais un certain nombre de livres sont à la fois suggérés et proposés aussi par les membres de la commission, enfin de la commission du Grand Prix. Ils suggèrent des livres qu'on a pu lire pendant l'été ou qui nous ont été conseillés et qu'on suggère, et à partir desquels s'organise une première réunion de la commission où sont examinés un grand nombre...
De livres. Vous êtes combien dans cette commission ? Parce que c'est un prix qui est décerné par l'Académie française, mais tous les académiciens de cette académie ne sont pas membres du jury.
La règle était pendant longtemps, mais maintenant, de ne pas faire partie d'autres jurys.
D'accord.
Pour être au prix du roman. Or, en fait, ce n'est pas le cas.
Dans les faits, oui, vous-même, vous
mais
étiez...
Mais moi, non, quand, tant que j'étais au jury du féminin, je n'étais pas au grand prix du roman,
d'accord.
Mais le membre du Interallié, du Renaudot, etc. Donc, il y a, là encore, cette circulation qui précède les réunions de la commission. Comme la réunion du jury, on se téléphone et on se parle des livres qu'on a lus. Ça, c'est ainsi que la marche. Donc, plusieurs réunions, au cours desquelles, par sélection successive, on arrive à... trois titres qui seront présentés à la compagnie, parce que ce n'est pas le jury, la commission en tant que jury qui va décerner le prix,
d'accord.
C'est la compagnie. Donc les trois titres sont présentés à la compagnie, à ceux qui ne font pas partie de la commission, mmh. et qui donc, à partir de cette présentation, seront conviés à la séance suivante à voter pour l'un de ces titres.
Pour l'annonce décisive. Donc là, on parle du Grand Prix du roman de l'Académie française. Est-ce que les prix littéraires, dans le paysage global, possèdent une ligne éditoriale, des sensibilités particulières, ou dans les faits, pas vraiment ?
Je ne pense pas. Je pense que chaque année, on essaie de voir s'il n'y a pas une ligne qui se dégage.
Ouais.
Il est clair qu'au printemps, la publication d'un certain nombre de récits semblait orienter la définition de l'année autour du rapport avec les mères.
Oui, alors, c'est le thème...
On en a parlé au printemps, il y a eu même une série d'articles qui portaient ce titre, dans des sites, ou dans les quotidiens, ou dans des hebdomadaires, où il y a eu l'époque des pères, et puis là, ce serait plutôt l'époque des mères. C'est une sous-section de quelque chose de beaucoup plus général qui s'est installé il y a 20, 30 ou davantage, à la fin, au fond, après la fin de l'ère du nouveau roman, qui avait été dominante pendant une quinzaine d'années. On en est sorti par ce qui a été appelé autofiction, c'est-à-dire avec Serge Dubrovski, qui a lancé le premier ce thème, cette idée, c'est-à-dire que l'auteur, parlant en première personne,
il utilise le
prend à partir de son expérience ce qu'il veut en faire. Autofiction, il y a toujours fiction dedans. Autofiction révélant le rapport, évidemment, d'intimité entre celui qui parle ou celle qui parle et le sujet. Pour moi, fiction est un mot compliqué parce que fiction supposerait une différence entre les faits et la narration de ces faits. Ouais. C'est un peu compliqué. Mais il est clair que le nouveau roman s'est terminé à ce moment-là et que l'autofiction, c'est-à-dire la dominance ou la domination de la littérature en première personne, date maintenant de plusieurs décennies et on n'en est pas sorti. Mmh. On n'en est pas sorti et à mes yeux, mais là c'est un propos qui n'engage que moi, à mes yeux c'est une part intéressante, importante de la fiction, mais qui étouffe. Alors quand je dis étouffe, évidemment je prends parti, peut-être faut-il prendre un verbe moins engagé, occulte serait encore trop fort, disons, occupe une place
importante, peut-être importante. Un peu trop importante.
Et à mes yeux, un peu trop. Mmh. Je demeure attaché, et je pense que les lecteurs aussi, demeurent attachés à un type de roman écrit à la troisième personne, dans lequel le narrateur est différent de l'auteur certainement, et de la, il n'y a pas de première personne, mais en troisième personne, et donne sur le monde un regard extérieur qui, à mes yeux, nourrit chez le lecteur une habitude de distance, de réflexion, de mise en perspective extraordinairement formatrice et qui fait partie de toute la fonction, en quelque sorte, éthique de la littérature, qui nous aide à comprendre le monde, à y vivre, à prendre la distance à l'égard des sentiments, des actions, mais en multipliant les angles de vue. À partir du moment où la narration première personne l'impose, on est pris, je dis parfois,
c'est pas la même chose,
dans l'intériorité de celle ou celui qui n'est pas forcément l'auteur, d'accord, ou l'autrice, mais en fait tout de même qui est ce narrateur. La narration première personne, pour moi, favorise beaucoup moins la distance que ne le permet la narration en troisième personne, qui constitue le tableau, la scène sur laquelle va se mettre en place le jeu des actions, des passions, des réactions, la distance. Alors que le jeu nous attire dans son... Et moi, je n'ai pas envie parfois d'être dans la tête du narrateur. Je voudrais être dans la tête de plusieurs.
C'est très intéressant ce que vous dites. Mais vous qui écrivez, justement, comment vous expliquez cette utilisation du jeu, on parle de retour à l'intime, qu'est-ce qui...
Je ne sais pas, il faudrait entrer, en effet. C'est un phénomène qui est coexistant, qui est coextensif, d'évolution sociale. Il met la dimension privée, les sentiments, les liens, les attachements au premier plan. Est-ce qu'il met l'interrogation sur les liens, les attachements, les rattachements ? Je ne crois pas. Il ne les interroge pas, il les propose, et parfois avec une espèce d'adhésion subreptice dont il est très difficile de se défaire. Et c'est pourquoi je préfère, en effet, l'extériorité que donne ce regard du narrateur en troisième personne.
Et aujourd'hui, quels sont les écrivains qui vous intéressent particulièrement, qui utilisent justement l'extériorité et qui
Ils sont en général du passé, je pense, pour l'essentiel. Non, je ne veux pas donner de nom, parce que je n'ai pas valeur de faire une sorte de tableau. Non, c'est difficile. Je n'ai jamais voulu le faire, parce qu'au fond, c'est toujours injuste, parce que c'est au moment de la mémoire immédiate. Non.
Ouais.
Mais il est clair que pendant toute la durée du temps où j'ai lu beaucoup de romans contemporains pour le féminin, j'avais besoin en permanence de lire, soit pendant, si j'avais le temps, soit après et avant, l'œuvre complète de Dickens ou de Balzac, parce que j'avais besoin d'être à distance. Parce que si je lis un roman de Balzac, je peux faire se rencontrer des intériorités, mais je peux aussi les voir de l'extérieur. Et je peux aussi, surtout, ne pas être attiré dans ce maelstrom des passions privées. Au fond, les passions privées, j'ai envie qu'elles restent privées parfois. Et je n'ai pas envie d'y être mêlée. Et j'ai envie, en tout cas, de les voir de l'extérieur. Mais je reviens à ce que je disais de cette perspective éthique. Je pense que nous en avons vraiment besoin, parce que rien ne peut nous donner cette expérience à distance, maîtrisée, qui me fait entrer dans des jeux auxquels je n'aurais pas pensé. et qui ne me ressemble pas, à qui je ne cherche pas à ressembler. Mais si j'ai un roman qui est écrit par une femme, ou de mon âge, ou plus jeune, etc., j'aurais forcément une sorte de biais qui va me... Je préférerais...
Tranquille. Une sensation. Mais pourtant, ces autofictions et les auteurs qui ont recours à ce jeu ont... malgré tout, beaucoup de succès aujourd'hui.
Mais bien sûr, mais pourquoi ? Eh oui, parce que c'est comme une sorte d'exaltation du moi. C'est-à-dire, ça donne au moi une espèce de justification, un tampon d'authenticité qui fait que tout moi, même de celle ou celui qui n'écrit pas, se dit « je suis un moi tout autant et ce qui m'arrive est tout aussi important. Donc, j'aime ce livre parce que je m'aime, au fond. Et moi, je préférerais qu'on se regarde, qu'on s'observe, qu'on se juge, qu'on se critique, plutôt qu'on s'aime. Je pense qu'on en a davantage besoin. Parce qu'on entre dans un circuit extrêmement douloureux dont on a du mal ensuite à s'extraire. Mais en même temps, on peut y prendre un grand plaisir. Et hélas, bien sûr.
Ça me fait aussi penser à un autre genre, le genre biographique, qui a le vent en poupe aussi aujourd'hui. Alors là, les auteurs n'ont pas recours au jeu, mais c'est une forme quand même qui...
Oui, mais quand la biographie, ça, tout dépend du type de biographie. Ouais. Les biographies peuvent être en extériorité, où les personnages biographés, en quelque sorte, sont comme le metteur en scène qui les dispose sur la scène du théâtre. Et ça, moi, je trouve ça absolument passionnant. Vraiment passionnant. Une biographie qui serait écrite en première personne, où quelqu'un essaierait de reprendre la première personne de son personnage, ce serait tout à fait autre chose. Moi, je pense que les biographies intéressent beaucoup.
Vous distinguez...
Je le pense aussi. Je les défends, pas toutes, bien sûr, mais elles sont inégales, mais ça, c'est tout à fait normal.
Qu'est-ce que, en 2025, signifie être écrivain ? Parce que j'imagine que la vie n'est pas du tout comparable à celle des auteurs, des écrivains du monde d'hier. Qu'est-ce qui a changé ?
Je pense que ce qui a changé, c'est peut-être le rapport scolaire, ou enfin, que l'école en général a instauré à la littérature, à la personne de l'écrivain. Et je pense que pendant longtemps... je parlais de moi, c'est plus simple. Pendant longtemps, je ne m'intéressais pas du tout de penser qu'il y avait des auteurs. Je ne voulais même pas le savoir. Et d'ailleurs, ce n'était pas un problème. J'ignorais qui c'était, où ils avaient vécu, qui ils étaient. Hommes ou femmes, en général, on se trompait. On ne pensait pas qu'il y avait des femmes, mais il y en avait de temps en temps. Formidable, et tout, et tout. C'était l'univers du livre qui comptait, et pas l'auteur.
L'auteur derrière.
Donc, l'accent mis sur la figure de l'écrivain... Il y a quelque chose là qui suscite en moi une grande distance. J'ai jamais beaucoup aimé quelqu'un qui me dit « je suis écrivain ». Je dis « et qu'est-ce que tu écris ?» Que tu sois écrivain, c'est rien pour moi. C'est pas un titre, c'est pas une fonction, c'est pas un métier, c'est pas un drame. Pour les romantiques, c'était une élection. Pour moi... Ça ne m'intéresse pas.
C'est vrai.
C'est pas être écrivain qui m'apporte. C'est j'ai écrit ceci, fais-le-moi lire, et là, on pourra parler.
Alors, parlons littérature. Alors, est-ce qu'il y a un domaine en particulier dans la littérature où vous avez l'impression qu'il y a une certaine forme de renouvellement ? Parce que là, on a parlé du roman, où on retrouve beaucoup cette autofiction, ce je. Est-ce que, la poésie, la BD...
Je crois qu'il y a la poésie, la BD certainement. Moi, l'initiation à la BD a été relativement récente de ma génération. Ça m'a un peu je ne sais pas que je m'y intéresse, je pense que le goût et même la passion du public pour l'histoire peut être un phénomène très important.
Oui.
Je pense qu'il y a un goût de l'histoire qui peut passer par aussi bien des films, des émissions de télévision qui peuvent être bonnes ou mauvaises, mais qui intéressent beaucoup. Une fascination pour les personnages historiques, pour les récits historiques, parce que justement, il y a un déplacement. Il y a évidemment... Ça dépend du type d'ouvrage, mais il y a la possibilité de se comparer ou au contraire de montrer les immenses distances qui vous en séparent. Mais je crois que le retour de l'histoire, la grande, la petite ou la moyenne, dans le roman n'est pas du tout inenvisageable à terme, je ne sais pas à quel terme, mais je le pense aussi. Je pense qu'il y aura un mouvement qui peut-être succédera à l'autofiction comme elle avait succédé au nouveau roman. Ce sera un mouvement par lequel... On n'écrira pas forcément des romans historiques, pas des romans qui se passent au Moyen-Âge, mais des romans qui peuvent, aujourd'hui, faire arriver autre chose que l'histoire du sujet, des rapports avec sa mère, et je l'aimais ma mère, elle m'aimait pas, je l'aimais, etc. Moi, j'ai pas trop envie de tout ça. Mais en fait, qui interroge l'histoire, et il y en a quelques-uns qui interrogent l'histoire, parce que l'auteur, par exemple, appartient à un milieu social, très différent du milieu un peu fermé, à la fois sur le plan, social, même, je dirais, local. Mm-hmm. Et là, en effet, d'un seul coup, on vit autrement, on entend d'autres choses, on mange autre chose. Voilà. Et ça, je pense que là, il y a une véritable ouverture et elle ne peut pas manquer de se produire. Ça, je le pense.
Là, on parle toujours dans le cadre du roman, mais il y a aussi d'autres formats. On l'a un petit peu évoqué, la poésie, la BD. Est-ce que le roman, aujourd'hui, qui rencontre beaucoup de succès, invisibilise ces autres formats, ces autres...
Je ne suis pas sûre. Je pense que la poésie, pour l'instant, là encore, moi je fais partie de la commission poésie aussi, ouais. Puisque nous couvrons des ouvrages de poésie. Je pense qu'il y a dans la poésie la poursuite, la continuité d'un mouvement assez formel, mais l'émergence ou le retour de temps en temps à des formes de poésie narrative, et qui est, à mon avis, aussi une grande... C'est très un retour à quelque chose, mais ce sera toujours sous des formes différentes. Ça, je le crois vraiment. Pour le reste, c'est un peu normal que le roman occupe tant de place, parce que nous avons envie non seulement de vivre, mais de voir comment vivre et comment se représente la vie. Et ce que je crains aujourd'hui, ce que je crains dans ce type de roman dont nous parlions, c'est qu'il réduit la représentation de la vie à des secteurs... extrêmement. Chez César Dubrovski, c'est un enfant ou petite-nièce ou neveu de la psychanalyse au départ. C'est évident, c'était interroger mes conflits intimes, donc avec ce qui est très proche, les parents, les amants, les amoureux, etc. Forcément, les enfants. Donc, on en est quand même toujours un peu là. Et moi, j'ai envie d'un peu plus d'air, c'est certain.
Mais c'est intéressant ce que vous dites sur la psychanalyse, qui irrigue, en fait, l'imaginaire et les
absolument.
Auteurs aujourd'hui.
Non, je dirais qu'en fait, il faut être clair.
Ouais.
La question de la lecture est une question très préoccupante. L'effondrement de la lecture est une question très préoccupante. En quelques années, on voit le pourcentage de gens qui disent avoir lu 5 livres. On passe de 40% à 25%, bientôt on baisse tout le temps. Je dis des chiffres tout à fait au hasard. Ça, c'est une première préoccupation. Et la deuxième, c'est le succès. Pour tous ceux qui s'intéressent en effet à comment vivre, ils vont pas lire La Princesse de Clèves ou Balzac, mais lire des livres de développement personnel qui ont un succès prodigieux. Et qui, à mon avis, sont un tissu d'inutilité, au singulier ou au pluriel. Mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a donc une grande anxiété, et je la comprends, je la partage, de savoir comment vivre. Bien sûr, il y a la réponse des religions, c'est certain, il y a la réponse, mais tout le monde ne l'a pas. Il y a la réponse du développement personnel, il y a la réponse de la psychologie. Et puis, il y a aussi cette réponse extraordinaire qui était l'univers du roman, mais au sens le plus ouvert du terme. Plus ouvert, et qui véritablement favorise cette mise à distance par laquelle on n'est pas envahi par la peur, l'anxiété, la douleur, mais on peut la mettre à distance et avancer en quelque sorte, mot qu'on aime beaucoup aujourd'hui, que j'aime pas trop, mais qui pourtant a du sens, ne pas être figé dans la situation.
Vous parliez de l'effondrement de la lecture qui vous préoccupe tant. Aujourd'hui, j'ai l'impression de connaître un petit peu votre réponse, mais les mangas, les romans de dark romance, je ne sais pas si vous connaissez la dark romance.
Je sais que ça existe, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à en lire.
Mais ce sont les catégories aujourd'hui les plus lues, selon les statistiques du Pass Culture, par exemple.
Alors, finalement, d'où la question que je me pose. Puisque la fonction qui pour moi l'emporte dans l'exercice littéraire, c'est cette fonction de mise à distance pour la compréhension de soi et des autres et du monde. Si on la trouve ailleurs, pourquoi pas ? Je ne sais pas si on la trouve vraiment ailleurs. J'ai essayé un moment, j'ai lu un peu des mangas, j'avoue que j'ai un peu de mal. D'ailleurs, j'aime pas trop la construction parce que j'y comprends rien étant donné cette circulation à l'intérieur
aussi,
des vignettes.
Bien sûr. De droite à gauche aussi qui change.
Oui, tout ça. Et puis les sujets, mais je n'ai fait qu'une étude trop rapide.
Ouais.
Les sujets me paraissent quand même un petit peu resserrés.
On ne rentrera pas plus dans le détail. Je voulais revenir sur ce moment-là de la rentrée littéraire dont on parlait au début et notamment cette question-là de la bataille des maisons d'édition. En 2021, 2022 et 2023, les lauréats du Grand Prix du roman de l'Académie française étaient édités chez Gallimard, la maison d'édition. Est-ce que vous tenez compte, malgré tout, des plus petites maisons d'édition ? Est-ce que ça rentre dans le...
Tant que nous le pouvons.
Ouais.
Moi, en tout cas, je l'ai vu, et je l'ai vu avec mes consoeurs du féminin, je le vois ici aussi, l'idée de s'intéresser aussi aux maisons d'édition. Le malheur, c'est qu'on ne peut pas lire un livre qui ne soit pas présenté par une maison d'édition. Le rêve, ce serait ça. Ce serait de pouvoir le lire sans qu'il soit présenté par une maison d'édition, sans que se mette en place ensuite toutes sortes de sollicitations, pressions, serait peut-être trop fort, mais tout ça, c'est un univers. Il y a eu une époque où on accusait les trois grands éditeurs, Gallimard, Grasset et Le Seuil. On disait, c'est Galli Grasseuil qui obtenait tous les prix. On n'en est plus tout à fait là, mais on a forcément. Mais, et en même temps, ces machines très puissantes, elles attirent aussi à elles des auteurs qui ont envie d'y être édités, qui ont envie d'être publiés. Donc, elles publient aussi des auteurs de qualité. Et il ne faut pas avoir une position de moraliste. Mais il faut de temps en temps quand même essayer de pointer des comportements ou des habitudes. Mais ce qui circule, selon quoi, si on soutient sa si on est édité, on va soutenir les auteurs de sa maison. Moi, j'ai jamais subi l'ombre d'une pression de mon éditeur pour me faire aimer un titre. Hein. Ça, jamais, jamais.
L'an dernier, c'est Miguel Bonnefoy qui avait été récompensé pour Le Rêve du Jaguar. Qu'est-ce qui avait retenu l'attention du jury dans son livre ?
Je vais vous dire, moi, Miguel Bonnefoy, je n'avais qu'une envie. J'avais envie un jour qu'il y ait un prix parce que lorsque j'étais au jury du prix Fémina, plusieurs fois il a été finaliste et jamais nous l'avions encore.
Bon.
Donc,
ouais.
quand je vois un auteur qui a subi, je suis contente. Je ne sais comment dire d'ailleurs, il y a un charme très particulier qui mériterait à soi seul d'être le sujet d'un livre, le charme de Miguel Bonnefoy, c'est certain. Mais moi je sais que c'est très important pour moi de suivre aussi un auteur.
C'est vrai ?
Ah oui.
Dans sa durée de...
Ah oui, vraiment.
Donc là vous allez lire tous ses prochains livres.
Alors certainement, certainement.
Aujourd'hui, nous enregistrons l'émission avant le jour de l'annonce officielle du lauréat du Grand Prix. Sans nous donner de détails, évidemment.
Bien sûr, je ne peux pas.
Non. Mais est-ce que le jury du roman est à l'unisson ? J'imagine que non. Il y a des débats, il y a des discussions.
Ah, c'est très, très vif. Ce qui est très intéressant dans ces réunions des jurys de prix, c'est ça me met dans une situation qui est très particulière, que j'ai analysée en étant membre d'autres jurys, féminins, mais aussi de jurys de prix moins importants. C'est que c'est très, très difficile de discuter vivement d'un livre face à quelqu'un qui en soutient un autre, qu'on n'aime pas. Il faut à la fois faire entendre qu'on ne l'aime pas, sans être forcément désobligeant pour celui ou celle qu'il soutient. Et c'est un équilibre très important, parce qu'il ne faut pas non plus se dire « je ne peux pas me permettre de le critiquer puisqu'un tel l'aime, ce n'est pas possible, puisqu'il faut qu'on se décide. » Donc j'aime beaucoup cet exercice qui est un exercice hautement démocratique, un vrai exercice citoyen, c'est-à-dire affirmer avec force une proposition, opposée à une autre, sans être ou méprisant, ou désagréable, ou odieux, surtout pas avec celui ou celle qui la soutient. C'est un exercice excellent. Et je pense que les jurys ont tous accepté que les prix aient des prix de lycéens, concours des lycéens, le Fémina des lycéens, etc.
Ouais.
Et c'est excellent, il ne faudrait pas que ça occupe trop de temps dans les cours, là, c'est sûr. Mais c'est très bien d'habituer des jeunes, des enfants ou des adolescents, à discuter vivement en prenant parti sans être négatif, méprisant ou avec celui ou celle qui défend la position opposée. Parce que ça oblige véritablement à un véritable débat démocratique.
Oui. Et vous parliez d'exercice, c'est un exercice.
C'est un vrai exercice démocratique, vraiment, excellent.
Et là, vous parliez de d'autres prix
oui.
au cours des... parce que certains parlent d'une multiplication aussi des prix littéraires.
Forcément.
Pourquoi pas, ça fait...
Moi, plus il y a de prix, plus il y aura de livres parmi les si nombreux livres qui sont présentés chaque année, plus il y aura de livres sur lesquels on attirera l'attention des lecteurs. Et peut-être, parce qu'il faut bien voir que les très grands prix, parfois, accordés à des auteurs qui jouissent d'un prestige éminent, on a constaté qu'ils se vendent parfois beaucoup, mais qui ne se lisent pas forcément toujours.
Oui.
C'est-à-dire beaucoup de lecteurs qui l'achètent parce que c'est tel prix et tel auteur et qui ne lisent pas forcément. Donc, ce n'est pas du tout ce que je cherche. Je préférerais qu'on donne un livre à un auteur peu connu, d'un éditeur totalement inconnu et qu'on le lise.
Non, ça
va de soi.
J'avais une dernière question, Daniel Sena. Vous qui avez été au cœur donc, de ces jurys-là, des débats, de ces choix, qu'est-ce qu'on retient vraiment d'une rentrée littéraire une fois le temps médiatique passé ?
Ah, ouf, on peut commencer à lire des livres qu'on a envie de lire. Non, je pense que c'est bien. Je pense que dans la situation très difficile de la lecture. Il va falloir, d'une manière ou d'une autre, qu'on en tienne de plus en plus compte dans les choix, dans ne pas laisser échapper des livres parce qu'ils sont chez des petits éditeurs qui peuvent moins facilement les soutenir. Ça, il faut en tenir vraiment compte. Mmh. Et multiplier les initiatives du genre, concours des lycéens, Fémina des lycéens et autres. Ça, c'est tout à fait bien parce que ça, ça fait entrer, voilà, ouais. Ça fait entrer le livre un peu partout. Ça entraîne ce rayonnement. Après tout, quand on a vu des pianos partout dans les gares, on était très contents. Il faudrait, c'est vrai, il y a quelque chose qui s'est passé là. Certains étaient très ironiques. Non, pas du tout. Il y avait quelque chose là. Il faut absolument qu'on trouve le moyen de faire entrer, et les prix en font partie. Les grands prix, et puis ceux qui sont tout. On fait pas, on font partie. Donc, à cause de ça, je ne ferai jamais partie de ceux ou celles qui disent il faut en finir avec les prix. Surtout pas, parce que qu'est-ce qui restera à ce moment-là?
Merci beaucoup, Daniel Salnave, pour vos mots. Je rappelle que vous avez aussi publié un livre en 2025, La Splendide Promesse, mon itinéraire républicain, publié chez Gallimard en 2025. On avait enregistré une émission ensemble et nous remettrons le lien sur la page de l'émission pour encourager les auditeurs à l'écouter aussi.
Je vous en remercie.
Et le livre est évidemment disponible dans toutes les bonnes librairies, à commencer par la librairie de l'Institut. Merci.
Absolument, merci à vous. Merci beaucoup.
Les podcasts de l'Institut de France.